Alors on chante, qu'est-ce qu'on attend? On n'a pas de terre de rechange, on n'a plus le temps de faire semblant. Alors on se lance, on laisse tout faire. On n'aura pas de deuxième chance, pas de plan B, pas d'autre terre.
100.9 Galade.
Bonsoir, vous êtes bien sur Radio Calade et nous sommes ravis de vous retrouver pour une nouvelle émission d'Alternativa, alors on change, un rendez-vous consacré au climat et au développement de l'alternative locale comme moyen d'adaptation aux crises climatiques. Au sujet ce soir, on va parler de ressources en eau, on va parler de l'été catastrophique qu'on vient de vivre, on pourrait même parler de l'année catastrophique qu'on vient de vivre au niveau de la ressource en eau. Depuis le début des mesures de Météo France depuis 1958, on n'a jamais connu un mois de juillet qui avait connu si peu de précipitations. Cette sécheresse a commencé à s'installer dès l'hiver dernier et a atteint des niveaux tels que 93 départements sur les 96 que compte la France ont fait et font encore l'objet de restrictions en eau potable. Plus d'une centaine de communes en France métropolitaine ont été privées d'eau potable. On a eu une sécheresse record et l'utilisation de l'eau est véritablement devenue une question de société. Même si la situation est tendue en France, elle l'est aussi dans d'autres pays. Et paradoxalement, d'autres pays ont, elles, connu des inondations dévastatrices et des phénomènes extrêmes comme des cyclones ou des tornades d'une violence et d'une intensité jamais connues auparavant. On est donc dans une situation inédite, comme on en fait souvent l'état dans cette émission. Et en tout cas, on est aujourd'hui quasiment privé de repères et plein de questions se posent à nous. À quoi est due cette sécheresse record que nous avons traversée cet été? En quoi ce phénomène est différent des vagues de chaleur qu'on connaît ou qu'on a pu connaître depuis plusieurs années? Quel lien exactement avec le dérèglement climatique? Quelles sont les causes de toutes ces raisons, de toutes ces explications? Pour ce qui concerne la ressource en eau, quelles sont les conséquences prévisibles à moyen, à court terme? Est-ce qu'on peut s'adapter à ce phénomène dès aujourd'hui sur nos territoires, sur le territoire plus global de la France ou même au niveau mondial? Comment on peut atténuer cette situation de crise pour mieux se protéger, pour mieux protéger nos générations futures et éviter de vivre soit dans un désert infernal, soit dans des inondations catastrophiques? Pour nous aider à y voir plus clair ce soir, on va discuter avec notre invité. Un grand merci à Grégoire Thévenet d'être parmi nous ce soir. Monsieur Thévenet, vous êtes directeur du syndicat mixte des rivières du Beaujolais et vous êtes avec nous dans les studios.
Bonsoir, c'est bien ça.
Le syndicat a été créé en 2004 et vous le dirigez et il regroupe trois intercommunalités du Beaujolais, l'agglo de Villefranche sur laquelle on se trouve, la communauté de communes de Saône-Beaujolais et la communauté de communes Beaujolais-Pierre-Doré. Le rôle, et on va en revenir là-dessus en détail, le rôle de ce syndicat est d'assurer sur les 50 communes qui sont concernées la gestion et l'entretien des rivières du Beaujolais, d'améliorer la qualité des cours d'eau et des zones humides, des zones souterraines aussi, et de réduire les risques d'inondation et de préserver la ressource en eau. On va revenir là-dessus ensemble pendant les 30 minutes qui nous sont allouées. Et puis ensuite, on aura en studio aussi une intervention de Bernard qui se trouve en face de moi. Bonsoir Bernard. Et Bernard nous parlera, comme d'habitude, de sa chronique « La calade verte ». Je vous donnerai ensuite quelques actus de la semaine. Et on pourra à ce moment-là vous redire un petit peu tout ce qui arrive dans les mois qui arrivent.
100.9 Galade.
Et on est donc avec vous, Monsieur Thévenet, pour parler un peu de la situation, enfin que vous nous présentiez un peu le syndicat mix que vous dirigez. Mais avant ça, j'ai une question un peu plus personnelle à vous poser. Je disais en introduction un peu les difficultés qu'on a vécues tous en France et peut-être cette prise de conscience du plus grand public et de nous-mêmes aussi sur la ressource en eau et la fragilité un petit peu de ce bien qu'on pensait être un peu infini. Vous, personnellement, vous avez vécu comment cette situation de sécheresse ou ces événements un peu extrêmes qu'on a connus avec tous ces feux et toutes ces vagues de chaleur, il y en a eu, je ne sais plus, 3 ou 4 dans cet été. Mmh. Comment vous, en tant qu'individu, vous faites face à ça ?
Ben, très clairement, cette année est une année qui est exceptionnelle sur le fait que dès le mois de janvier, on a eu des faibles pluies. Et c'est vrai que ça crée des gros problèmes, nous, pour notre... pour notre ressource en eau, pour nos eaux souterraines sur le territoire. C'est pas une année non plus exceptionnelle dans le sens où depuis 4-5 ans, on retrouve ces problèmes de faibles précipitations dès l'hiver. Et c'est ça qui est vraiment, j'allais dire, nouveau et qui illustre ce changement climatique à l'échelle de notre territoire, mais aussi à l'échelle nationale. Voilà, donc c'est vrai que c'est assez inquiétant de voir que d'année en année, c'est maintenant les années exceptionnelles deviennent des années normales en fait. Et il va falloir s'y habituer et donc mettre en place localement des actions pour rendre nos rivières moins vulnérables face à ce changement climatique, face à ces sécheresses, pardon.
Et pour ça, donc, vous dirigez le syndicat mixte du Beaujolais. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de cette structure pour nos auditeurs ? C'est vrai qu'on a parfois l'impression d'un millefeuille, on entend souvent cette expression, un millefeuille administratif avec des entités administratives qui se surajoutent, en tout cas beaucoup qui existent, le syndicat. Donc je disais en intro que c'était une cinquantaine de communes, de trois agglos,
deux communautés de communes et une agglo. L'intérêt de cette structure, c'est qu'elle dépasse les découpages administratifs habituels. Le syndicat, en fait, il se découpe par bassin versant, bassin hydrographique. Donc ça prend en compte les rivières de leur source jusqu'à leur confluence, là, en l'occurrence avec la Saône. Okay. Donc c'est vraiment un découpage géographique qui permet de gérer de façon optimale les milieux aquatiques. Donc l'idée, c'est de pouvoir, sur notre territoire, on a 600 km², 500 km de cours d'eau dont on a la gestion.
Par cours d'eau, on entend, par ici, on a le Morgon.
Voilà, les grandes rivières de notre territoire. Enfin, ce sont des petites rivières, oui, voilà. Mais les rivières les plus connues, c'est le Morgon à Villefranche. On a plus au nord le Niseran aussi, Glaizé-Villefranche, le Marveran, la Vauxonne. Le principal bassin versant, c'est l'Ardière, donc, qui coule des Ardillas, Beaujeu jusqu'à Belleville. Et qui arrive dans la Saône. Et puis ensuite, on a encore la Mauvaise plus au nord. Et donc, en gros, ce sont toutes les rivières qui traversent le Beaujolais viticole.
D'accord.
Du sud de Mâcon au sud de Villefranche et qui confluent vers la Saône.
Donc, qui les traversent plutôt d'est en ouest ?
De ouest en est.
De ouest en est, pardon. Oui. Ouais, OK, d'accord. Et là, on est sur le département du Rhône. On reste sur le même département.
On est sur le département du Rhône.
D'accord, voilà, tout à fait. OK. Et une commune, elle adhère comment à votre syndicat ?
Alors, en fait, ce sont les communautés de communes et d'agglos qui adhèrent au syndicat. Donc, les communes font partie d'une agglo ou d'une communauté de communes. Et ensuite, on a des représentants de ces communautés de communes et d'agglomérations qui sont dans le syndicat de rivière.
Donc, ça veut dire que nous, dans notre agglomération de Villefranche, on a élu des représentants au niveau des mairies qui vont à l'agglomération.
Exactement.
Et après, dans l'agglomération, ils se donnent des mandats pour être au sein syndicat.
Donc, par exemple, sur Villefranche, on a Catherine Rebaud, qui est la première adjointe de Glaizé, qui est aussi donc élue communautaire et qui est vice-présidente dans notre syndicat de rivière. On a aussi Benoît Froment, qui est adjoint à Villefranche et qui est aussi vice-président dans notre syndicat de rivière. Et puis le président du syndicat, c'est Jacques Ménichon, qui est le maire de Lancier, le président de la communauté de communes Saône-Beaujolais, et qui est président du SMRB.
D'accord. Et donc, vous êtes un organisme qui regroupe des élus Et puis après, vous avez un certain nombre de salariés qui c'est sont ça. Employés par le syndicat qui trouvent ces ressources financières d'où ?
Alors, et ben, ce sont les adhérents, c'est-à-dire les CC, Comcom et Aglo, qui nous versent une adhésion chaque année.
D'accord.
Et ensuite, on a à la fois la masse salariale et également toutes les actions qu'on mène, tous les travaux qu'on fait sont fortement aidés, subventionnés par des organismes comme l'Agence de l'eau, Rhône Méditerranée Corse, qui est une agence d'État, qui finance toutes les actions en faveur de l'amélioration de la qualité de l'eau.
Ok. Donc là, on a parlé un peu structuration. Vous êtes de nombreux salariés ?
Non, on est 4 et demi.
D'accord.
Donc c'est une petite structure.
Ouais. Qui est basée où ?
Qui est basée à Belleville.
D'accord.
Dans les locaux de la mairie de Belleville. Et ensuite, donc, on a un ingénieur inondation qui s'occupe de cette thématique, une ingénieure qui s'occupe plus de la thématique qualité agricole, une ingénieure agronome, un technicien de rivière qui est lui beaucoup sur le terrain, qui suit les travaux. Et ensuite, ça ne fait pas partie du syndicat, mais ils sont mis à disposition, on les utilise, entre guillemets, utiliser le mot n'est pas très joli, mais on fait travailler chaque année une équipe de brigade nature, une équipe d'agents en insertion qui, au quotidien, sont sur les bords des rivières pour entretenir
Ah oui, j'ai entendu ça. Parfois, les communes demandent à ce que des brigades, les brigades voilà. rivières viennent
Exactement.
Et nettoient les petits
Donc,
cours d'eau qui traversent
la commune. Il y a 5 à 6 personnes au quotidien qui sont sur les rivières du Beaujolais pour gérer la végétation ou faire des petits travaux d'entretien de
Les voies autour, etc. Ok. D'accord. Et donc ça, c'était un peu comment vous êtes structuré. Ensuite, quel est le mandat du syndicat ? Sur quel schéma vous intervenez alors, et sur quelle thématique vous intervenez ?
Alors, les compétences du syndicat, c'est des compétences qui s'appellent les compétences GEMAPI. C'est un terme connu dans
notre jargon. On connaît la loi GEMAPI souvent.
Voilà. Donc GEMAPI, ça veut dire gestion de l'eau et des milieux aquatiques et prévention des inondations.
Okay.
Donc nous, nos compétences... On est sur différents volets, donc on a des compétences pour améliorer la qualité écologique de nos rivières. On parle de renaturation de rivières, de restauration, de la continuité piscicole. Enfin, donc voilà, la qualité écologique des rivières et biologique. On a des compétences pour l'entretien des cours d'eau, l'entretien de la végétation, des compétences hydrauliques pour faire des travaux. Problèmes d'érosion de berges, etc. Et puis tous les travaux qui concernent la gestion des risques d'inondation. Donc on a beaucoup de programmes de travaux pour protéger notamment Villefranche et Glaizé qui sont dans des zones inondables à cause de ces petits ruisseaux. Et puis on a aussi des compétences vis-à-vis de la ressource en eau, d'amélioration de la connaissance par rapport à cette thématique-là. Et puis de diffusion, de communication et de sensibilisation auprès du grand public, auprès des enfants, des scolaires et puis des habitants du Beaujolais.
Ok. Vous avez plusieurs fois utilisé la question le terme du cycle de l'eau. On se rend compte un petit peu hein, quand on écoute un peu les infos ou quand on est un peu comme nous intéressé par ces questions de climat, qu'il y a un dérèglement massif du cycle de l'eau. On entend beaucoup parler d'imperméabilité des sols, de ruissellement en accroissement des ruissellements. Les sols deviennent plus imperméables aux pluies quand elles sont là. On sait que les responsables sont nos modes d'agriculture qui rendent les sols moins vivants. L'accroissement de l'artificialisation des sols avec des villes de plus en plus étendues et des sols dans les villes qui récupèrent pas non plus l'eau. Donc l'eau qui est prélevée finalement très profond en nappe, elle se retrouve finalement insérée dans le cycle de l'eau. Et j'entendais en préparant cette émission que ça augmentait aussi le pourcentage de vapeur d'eau qui était finalement dans le cycle de l'eau et que du coup on prenait de la ressource qui était plus profonde pour la remettre dans le cycle de l'eau et que ça recréait un dysfonctionnement au niveau du cycle de l'eau. Aujourd'hui, à quoi on peut, à quoi on peut attribuer les causes de sécheresse extrême qu'on vit encore. On a été, et je crois qu'on l'est encore, en situation de précarité, oui, ou d'alerte sur l'eau. Je parlais de 93 départements sur les 96. Aujourd'hui, le Rhône est encore en crise sur l'eau. Donc du coup, ce dérèglement du cycle de l'eau, il s'explique comment et à quoi on peut, voilà, quelles sont les causes un petit peu de tout ça?
Alors, elles sont multiples, hein, mais très clairement, les problèmes aujourd'hui de sécheresse, c'est lié au réchauffement climatique. Donc après, moi, je vais pas vous faire toute la liste des pourquoi est-ce qu'on arrive à ce réchauffement climatique. Enfin, il y a des experts pour ça, et puis on entend beaucoup parler. Je suis pas la personne la mieux placée pour parler de ça, mais en tout cas, ce qu'on constate, c'est que ces sécheresses-là, elles sont de plus en plus récurrentes sur nos territoires. Nous, on le voit bien sur nos cours d'eau. Hein, c'est pas exceptionnel d'avoir des sécheresses sur une année. Ça arrive à toutes les époques d'avoir des cours d'eau qui s'assèchent, par exemple. C'est arrivé au cours du XXe siècle. C'est arrivé en 1976. C'est arrivé en 2003. Ça arrive.
Est-ce que ça arrive pas plus fréquemment?
Voilà, ce qui nous inquiète, c'est que depuis 2015 ou 2016, on a quasiment des assèchements toutes les années, ce qui n'était pas forcément le cas avant. Et c'est maintenant l'année où on a des hautes eaux ou des eaux juste qui étaient normales il y a 30 ans. C'est ça l'année exceptionnelle aujourd'hui. Et c'est ça qui est inquiétant, c'est qu'on voit vraiment une surfréquence de ces années d'assèchement et des mois aussi. Pendant l'année, en fait, avant on avait des assèchements surtout entre les mois de juillet, août, septembre. Là, on voit des cours d'eau qui s'assèchent dès le mois de juin, dès les mois de mai même. Et c'est ça qui nous... Voilà, il n'y a pas eu de nouveaux usages sur le territoire de prélèvements différents. Et par contre, on constate ces assèchements. Donc, c'est bien lié au réchauffement climatique global.
On reparle tout de suite après la première pause musicale qui enchaîne là. On reparle tout de suite après de recharge hivernale et justement de ces déficits en eau de plus en plus fréquents.
Au-delà de nous, qu'est-ce qu'on trouvera? Quand l'eau montera au-dessus des sols, quand de l'or et du sel il nous restera que le goût des larmes, des remords. Quand on aura tout vaincu, tout pillé, tout perdu, tout gâché, au-delà de nous, est-ce qu'on trouvera un deuxième cœur caché sous l'eau, sous l'eau? Des trésors oubliés sous l'eau, sous l'eau. Dans ce monde submergé, qu'est-ce qui peut d'amour je vis, sur mon radeau j'ai réuni des gens pour me maintenir à flot. Quand viendra la montée des eaux, quand décembre aura un soleil d'été, j'aimerais savoir toujours aimer et croire que l'humain peut encore transformer la poussière en or. Sous l'eau, des trésors oubliés sous l'eau. Sous l'eau, dans ce monde submergé, qu'est-ce qui peut émerger que la peau sur les eaux? Sous l'eau, sous l'eau. Sans rester debout, tant qu'on essaie, que dedans les remous nous disent qu'on n'est pas tout à fait à genoux. De l'eau jusqu'au cou, on tiendra le bord et au bord du précipice, on ira encore chercher, rechercher le meilleur de nous. Le deuxième cœur fâché, deuxième cœur caché sous l'eau, sous l'eau.
Des trésors oubliés
sous l'eau, sous l'eau. Dans ce monde submergé, qu'est-ce qui peut
on est bien sur Radio Calade et vous êtes sur Alors on change, l'émission d'Alternatiba. Et ce soir, on parle de ressources en eau. Et on est en compagnie de Monsieur Thévenet, Grégoire Thévenet, qui est le directeur du syndicat mixte des rivières du Beaujolais. Monsieur Thévenet, on parlait on parlait de recharge hivernale et du fait qu'on était en déficit de pluie de plus en plus souvent et du coup on parlait un petit peu des constats. Maintenant on peut se prendre une deuxième partie pour parler un petit peu plus de qu'est-ce qu'on peut faire nous en tant que citoyens et puis vous en tant qu'institution qui êtes au cœur du sujet. Souvent, les questions de dérèglement climatique ou de situation de gestion de situation de risque nous semblaient un peu loin dans nos cultures ici en France. Peut-être on a fait des erreurs en ayant cet ours blanc sur l'Arctique parce qu'il nous semblait bien loin et que du coup on se disait qu'on pouvait pas faire grand chose pour lui, ce pauvre ours. Mais en fait, c'est le problème de nos pays. Maintenant, on a bien vu cet été, ça va se passer sur tout le territoire en France. On a vu des incendies en Picardie, des feux de champ cet été. Et c'était assez impressionnant de voir que même en Picardie, ça brûlait. Comment on s'adapte à ces rythmes? Vous parliez tout à l'heure d'accroissement des rythmes de sécheresse, que l'exceptionnel devient la norme, finalement. Donc, quelle solution? Est-ce qu'on doit faire attention un peu aussi aux solutions court-termistes? On a eu la semaine dernière des manifestations, des gens qui sont... Il y a eu plus de 7000 personnes, dont des personnes d'Alternatiba, qui étaient présentes pour le bassin... le méga bassin des Saintes-Solines dans les Deux-Sèvres, puisque est-ce que le fait d'avoir des méga bassines est une solution pour préserver la ressource en eau? Les risques de sécheresse sont de plus en plus récurrents, on disait. Est-ce que il va falloir bouger aussi, pas que peut-être sur l'eau elle-même, mais sur l'agriculture? Vous parliez de personnes qualifiées chez vous qui travaillent aussi sur les relations avec nos usages agricoles, et on sait que l'agriculture est un usage, fait une grosse utilisation de l'eau. La viti, on entend parler de temps en temps par un autre syndicat qui travaille sur le vin, peut-être d'irrigation de la vigne. Quels sont vous, au niveau du syndicat, qu'est-ce que vous êtes en train de mettre en place? Parce que peut-être que c'est des choses dont on prend conscience que maintenant, même si le GIEC nous en parlait déjà depuis 2001. Et comment vous vous adaptez par rapport, déjà vous en tant que syndicat, comment vous vous adaptez par rapport à cette situation? Et puis ensuite, peut-être comment nous, on peut s'adapter, qu'est-ce qu'on doit faire nous en tant que citoyens?
Alors effectivement, l'objectif face à ces sécheresses récurrentes, c'est de rendre nos rivières plus résilientes et donc moins vulnérables face à ces sécheresses. On sait qu'on va, ces cours d'eau vont subir ces sécheresses, mais l'idée c'est qu'elles le subissent moins. Et, les actions qu'on mène depuis pas mal d'années, il y a déjà des choses simples que fait le syndicat par rapport à ses compétences, c'est d'essayer au maximum de faire de la replantation. Replantation de la végétation en bordure de cours d'eau, ce qu'on appelle la ripisylve.
La ripisylve.
Ripisylve, voilà. D'accord. Ce qu'on appelle forêt alluviale, végétation des berges.
D'accord.
Cette ripisylve, en fait, elle joue plein de rôles. Des rôles d'épuration de l'eau, de biodiversité, d'amélioration de la biodiversité, etc. Mais aussi un rôle hydrologique important, parce que cette ripisylve, elle va apporter un ombrage massif au cours d'eau, empêcher que les températures de l'eau déjà montent trop et qu'il y ait de la mortalité de poissons, et également limiter fortement l'évaporation. Parce que ça, on le constate très clairement, les secteurs où il y a eu des coupes à blanc, pas de végétation, on a effectivement... beaucoup d'évaporation et rapidement des cours d'eau à sec. Les secteurs avec une ripisylve conséquente...
Là, on parle de deux semaines, quand il n'y a pas d'eau, pendant combien de temps?
En fait, sur notre territoire du Beaujolais, en fait, on a des petites nappes d'accompagnement des rivières. On est sur ce qu'on appelle des aquifères cristallins. Alors, c'est du massif central. Il y a peu de recharge en eau possible. Donc, du coup, nos cours d'eau suivent de très près les courbes des précipitations. Enfin, les débits des cours d'eau sont corrélés aux précipitations. Donc, en fait, on a très clairement, au bout de quelques semaines sans eau, on voit nos cours d'eau qui baissent fortement. Et même dès l'hiver, on commence à avoir des périodes très critiques. Donc, c'est pour ça que ces ripisylves, elles ont un rôle vraiment important. on essaye de mener des... On met en place des conventions avec les agriculteurs, notamment, qui ont pas mal de terres en bordure de ces rivières, pour replanter, pour permettre à leurs animaux de venir s'abreuver, mais sur certains secteurs bien spécifiques. Et tous les autres secteurs qui étaient potentiellement piétinés par les bovins et qui empêchaient la ripisylve de repousser, on met en place des
aménagements. Donc il y a un travail sur le foncier aussi qui est réalisé ?
Alors, sur le foncier, pas forcément. C'est que c'est plus de sens. Enfin, on peut avoir de travail de foncier sur certains aménagements d'acquisition foncière ou de, par le syndicat pour pouvoir mener des actions de renaturation de cours d'eau. Mais après, on peut avoir des actions de partenariat avec. Avec
les propriétaires.
Des propriétaires privés, pour qu'ils acceptent qu'on vienne replanter de la ripisylve en bordure de rivière.
Ok. Voilà. Donc beaucoup de travail de prévention, qui est peut-être aussi compliqué à faire dans un contexte où, quand on plante des jeunes arbres, il faut qu'ils aient de l'eau.
Alors oui, sauf que en fait, ce sont des arbres qui sont adaptés à être en bordure de rivière et qui vont finalement se servir de la nappe d'accompagnement des rivières pour pousser. Ce sont des saules, des aulnes, donc il n'y a pas besoin de venir les arroser. Ces arbres, ils vont puiser de l'eau, mais en fait, le bilan hydrique entre ce qu'ils vont puiser et ce qu'ils vont sauver est largement positif. Donc, en fait, ils ont un.
Et il faut combien de temps pour qu'ils tiennent leur rôle de.
En une année et demie, en deux ans, on a un ombrage.
Un ombrage suffisant.
Très vite. Okay, des saules, des pieds dans l'eau, ça pousse à toute vitesse. Et on retrouve très rapidement, en moins de deux ans, un début d'ombrage. Et puis en 4-5 ans, on a des arbres de 5-6 mètres.
Et vous disiez juste avant que ça travaille aussi sur la qualité de l'eau. Ça veut dire que aujourd'hui, on sait que un des problèmes forts aussi, et tout est lié dans les histoires de dérèglement climatique, c'est aussi l'usage agricole qu'on a pu prendre. Et on voit que la France est toujours un peu à la traîne à réduire les pesticides. C'est un sujet qui est fortement ici questionné, parce que dans notre agriculture traditionnelle, dans notre viticulture traditionnelle, on a pu utiliser beaucoup de pesticides ou d'herbicides. La qualité des eaux de nos rivières, elle est comment ici en Beaujolais ?
Alors, en Beaujolais, elle n'est pas parfaite. On va dire qu'elle s'améliore. Là, très clairement, depuis 15-20 ans, on a quand même... Il y a toujours, en fait, une pollution de fond par les pesticides qui est présente. Souvent, des pesticides qu'on retrouve dans des eaux souterraines, des pesticides interdits depuis 15-20 ans, mais c'est leurs molécules de dégradation qu'on continue à retrouver. Donc, ce qui veut dire que c'est...
Une latence très, très importante.
C'est assez problématique pour ça. Mais très clairement, quand on fait les mesures de qualité de l'eau, on note une amélioration depuis plus de 10 ans. Il y a quand même une gestion, heureusement, plus technique aujourd'hui de l'utilisation de ces pesticides. Et on a quand même moins de traitements et moins de transferts de ces pesticides vers les cours d'eau grâce à la mise en place d'enherbement, de mise en place de zones tampons, etc. Donc c'est moins problématique qu'il y a 20 ans, mais le problème existe toujours. Et quand je parlais des ripisylves, elles jouent aussi un rôle là-dedans. En tant que zone tampon, en fait, ces zones tampons entre des versants agricoles et une rivière, elles vont permettre c'est de la biochimie, quoi, mais d'épurer une partie de ces molécules.
Comme un peu les stations d'épuration qu'on peut voir en roseau.
Exactement. Voilà.
Ok, d'accord. Donc ça fait partie de votre compétence de pouvoir.
On mène tout un travail, notamment là, sur le bassin versant de l'Ardière, puisqu'à l'exutoire de ce bassin versant, il y a un captage d'eau potable de Belleville, qui est dit prioritaire nationalement. Et sur lequel il faut faire des efforts pour diminuer les potentielles pollutions par les pesticides notamment. Et on a 42 agriculteurs qui sont engagés avec le syndicat de rivière et avec la communauté de communes Saône-Beaujolais pour diminuer l'utilisation de pesticides, mettre en place des haies, enherber les parcelles pour diminuer les pressions sur la rivière et sur le captage d'eau potable.
Et on a en France une politique de gestion de risque de risque de, des inondations qui est plus dans notre culture, parce qu'on a eu des épisodes d'inondations dans les 20 dernières récentes années qui ont été assez tragiques. Hein, je pense à Vaison-la-Romaine ou à d'autres, la vallée de... j'allais dire la vallée de la... Mais c'est pas la... Voilà, c'est la Roya. Par contre, sur les sécheresses, on a l'impression qu'on découvre un petit peu plus. Aujourd'hui, la vulnérabilité dans laquelle on se trouve... comment vous, en tant que syndicat, vous prenez vous développez des politiques de résilience par rapport à cette sécheresse courante, hein, enfin, en tout cas systémique, qui a l'air de se mettre en place. Et ensuite, comment, donc, quelles sont les actions que vous mettez en place pour faire ça, et quelles sont les choses que nous, en tant que citoyens, on peut faire à la fois individuellement, mais peut-être collectivement aussi. Donc, comment s'engager pour participer à l'action?
Très clairement, tout à l'heure, vous parliez de désimperméabilisation. En fait, un citoyen... Alors, il y a des économies d'eau que tout le monde peut faire et doit faire.
Et qui sont d'ailleurs obligatoires, parce que vous disiez, on est encore
Sont obligatoires. Voilà,
il y a encore un arrêté.
Pour les arrosages, encore aujourd'hui, alors qu'on a pourtant de la pluie, on pense que le problème est... Il n'y a plus de problème sur le territoire. En fait, si, les nappes d'eau souterraine ne se rechargent pas suffisamment.
D'accord.
Et donc, il y a encore des restrictions. On n'a pas le droit d'arroser en pleine journée, par exemple. Alors aujourd'hui,
on a
moins besoin aussi. Mais il y a toujours des restrictions. On peut, sur la désimperméabilisation, un particulier, il a un rôle à jouer, par exemple sur la rétention des eaux pluviales, en mettant en place des citernes dans son jardin, par exemple, s'il a une maison, pour pouvoir utiliser cette eau ensuite pour arroser ou pour d'autres usages. Ça, c'est vraiment important de faire ces actions-là, de désartificialisation aussi pour permettre aux eaux, désimperméabilisation pour permettre aux eaux qui s'écoulent aux pluies de s'infiltrer dans les sols et de venir alimenter les nappes, plutôt que de provoquer des ruissellements qui vont augmenter aussi des inondations, et ces ruissellements qui vont se retrouver directement plus à l'aval dans la rivière, mais sans aller vers les nappes d'eau souterraine.
Donc des gestes individuels à faire, effectivement, mais ensuite systémiquement ou structurellement, comment faire en sorte que les élus, on parlait tout à l'heure de l'organisation du syndicat, qu'est-ce que nos élus, quelle est la conscience d'ailleurs aujourd'hui de nos élus sur l'urgence climatique? Est-ce que vous avez l'impression d'avoir des communes, une cinquantaine, on parlait d'une cinquantaine de communes aujourd'hui réceptives à l'urgence dans laquelle on se trouve, ou bien est-ce que...
De plus en plus... Alors, surtout les élus que je côtoie au syndicat de Rivière, qui sont engagés dans le syndicat, donc ils sont très sensibles à ces questions-là. Mais c'est aujourd'hui, comme nos rivières qui s'assèchent, par exemple, on a de plus en plus, on voit des kilomètres de rivières sans eau. Les élus, ça les interpelle vraiment, et le grand public aussi. Donc aujourd'hui, il y a une volonté de mieux comprendre la ressource en eau sur notre territoire, et il y a des inquiétudes par rapport au futur. C'est pour ça qu'on lance une grande étude là, ces prochaines semaines sur ce qu'on appelle une étude volume prélevable, pour mieux comprendre sur le territoire du Beaujolais quels sont les différents acteurs qui prélèvent. Donc il y a les collectivités pour l'eau potable, pour nous. Il y a les industriels, il y a des agriculteurs qui prélèvent quoi et où, enfin quelle quantité.
Est-ce que ça, quand on lit les rapports du GIEC ou le rapport au Conseil pour le climat en France, on a l'impression que ces données-là, elles existent déjà, puisqu'ils sont capables de nous dire aujourd'hui l'état de la situation en France?
Oui, alors elles existent à l'échelon départemental, global. Après, on a besoin d'avoir une analyse poussée sur territoire, sur le territoire du Beaujolais par exemple, pour ensuite pouvoir objectiver le problème de la ressource en eau, et puis mettre tout le monde autour d'une table pour se dire, voilà, ici, il y a peut-être des usages qui prélèvent trop, ou il va y avoir des problèmes en 2050 ou en 2030, enfin demain. Donc, anticipons, discutons pour
la
voir.
La guerre des usages, anticipons.
Exactement.
Cette. Ok.
Il y aura peut-être de plus en plus de pression sur le territoire du Beaujolais, qui est un territoire. Il y a pas mal de démographie, il y a pas mal d'activités sur ce territoire. On a la proximité de Lyon. Et du coup, demain, il y aura peut-être plus de pression et moins d'eau. Donc, comment est-ce qu'on fait avec ça? Donc, cette étude, elle va nous permettre de mieux anticiper ces problématiques et de trouver des solutions de partage de la ressource en eau, parce que c'est bien de ça qu'il s'agit.
Et donc ces résultats sont estimés à espérer.
Alors,
pour quand?
Cette étude, c'est une grande étude qui va durer plus d'un an et demi, donc ce sera certainement au cours d'année 2024.
D'accord. Donc après, on pense que le temps que ce soit ressaisi par le politique, on pourra avoir des plans d'action qui sont mis en place avant les fins de mandat de nos élus actuels.
Ben ensuite, cette étude, elle va permettre de donner des stratégies d'action pour les décennies à venir, en fait. Mm-hmm. Et okay. Après, il y aura peut-être même encore d'autres études, malheureusement, à mener sur certains points précis. On ne sait pas encore, mais ça ne nous empêche pas dès aujourd'hui de commencer des actions pour économiser l'eau et la préserver.
Et du coup, on a parlé d'actions individuelles, d'actions collectives qui sont en train de, enfin en tout cas d'études collectives qui sont en train d'être mises en place pour justement débunker un petit peu les prochains guerres d'usage dont on voit aujourd'hui la réalité dans le sud de la France, hein, quand on diminue les débits d'eau des particuliers ou l'interdiction d'irriguer pour des professionnels. Est-ce qu'il y a des travaux de prévention que vous faites aussi avec les générations futures, avec des scolaires ou avec des plus jeunes?
Alors,
pour que justement la ressource en eau, cette histoire de l'eau où on ouvre le robinet et ça coule et tout va bien, un peu changer les récits faits autour de l'eau?
Oui, il y a une forte volonté de sensibiliser les enfants et puis même les habitants de notre territoire. Par exemple, là, depuis le mois de juin, il y a eu beaucoup d'animations proposées aux bordures de nos rivières pour le grand public sur l'agglo de Villefranche, mais aussi comme Saône-Beaujolais. Il y a également des animations scolaires qui sont proposées là auprès d'une. Chaque année, il y a à peu près 30 écoles qui bénéficient d'animations scolaires sur les milieux aquatiques. On fait intervenir la LPO, la Fédé de pêche, France Nature Environnement, qui vont parler aux enfants d'économie d'eau, qui vont parler aux enfants de nos rivières, de l'importance de préserver cette biodiversité, ces richesses-là, et de préserver la ressource en eau. Ouais.
Ok. Ben merci pour tous ces échanges. On retiendra qu'effectivement, on a un regard sur l'eau qui doit évoluer et qu'il faut faire évoluer vite pour éviter effectivement les guerres d'usage entre nous, puisque on rentre dans une période de raréfaction de cette ressource qui est de plus en plus importante dans les années à venir. Merci beaucoup, Monsieur Thévenet. Et puis, on passe à la chronique. Mais d'abord, on écoute une nouvelle pause musicale.
Un païen qui appelle pour qu'elle dise non.
Et nous venons d'écouter Rien que de l'eau. On est resté dans le thème de Véronique Sanson. C'est pas d'aujourd'hui, mais c'est toujours d'actu. C'est le moment de la chronique verte avec Bernard, avec un petit peu d'humour. Un test aujourd'hui. Bernard, c'est à toi.
Merci Anso et bonsoir à toutes et à tous. Avant de commencer à rédiger cette chronique, je me suis interrogé sur la tonalité à lui donner. Les sujets d'actualité sont graves, dramatiques même, et le risque est de tomber très vite dans une spirale de noirceur sans fin. J'ai donc pris l'option cette fois de ponctuer la chronique de petites fables express, que j'espère rigolotes, même si elles sont parfois très approximatives. Vous verrez bien. En tout cas, c'est une occasion supplémentaire d'illustrer le fameux adage « L'humour et la politesse du désespoir ». Information générale. Eh bien, ça y est, c'est fait. On a parlé de l'eau, et ce n'est qu'un début. Pour finir le tableau, nul doute qu'on reviendra sur ce sujet majeur dans d'autres émissions, surtout si par malheur la situation empire. Il faut être lucide. De toutes les mesures anti-climaticides, celles pour protéger l'eau sont les plus importantes. L'eau est source de vie, formule évidente. Trois voyelles accolées, miracle de notre langue, qui forme un mot magique, véritable Big Bang. Omniprésente sur Terre et dans notre propre corps, essentielle pour la vie, sans elle, nous sommes morts. C'est sans doute pour ça qu'on voit depuis toujours l'intérêt que lui portent des hordes de vautours seulement préoccupés par des buts personnels et usant s'il le faut de moyens criminels. Complot, corruption, guerre, ils ne lésinent pas, ne comptons pas sur eux pour un mea culpa. Au contraire, aujourd'hui, ils sévissent toujours, ne se cachant même plus, agissant au grand jour, et on les voit venir, tous ces accapareurs, ceux des méga-bassines, pseudo-agriculteurs, inféodés au groupe de l'agro-industrie, obsédés de profit jusqu'à l'idolâtrie. Et on les voit venir, tous ces grands profiteurs, osant se faire passer pour de bons protecteurs de l'environnement, oubliant qu'on les paye pour laver aujourd'hui ce qu'ils polluaient la veille. Et on les voit venir, tous ces spéculateurs, traders de Chicago, infâmes boursicoteurs, faisant d'un bien commun une valeur marchande, une vraie source, oui, mais de gros dividendes. Mais jusqu'où iront-ils ? Attendons-nous au pire, demain, on payera jusqu'à l'air qu'on respire. Fable Express. Ils sont venus un jour avec une intention, fermer le robinet. Je leur dis, attention, je suis toujours vivant et j'en ai bien besoin. Alors, un peu de patience, sinon je fais du foin. Moralité, avant de m'ôter l'eau, attendez que j'expire. Vie locale. Même si en Beaujolais, ce n'est pas vraiment l'eau qui remplit nos flacons, même si le goulot qu'on tête chaque jour vient de nos vignerons, il serait malvenu de faire les fanfarons face à une sécheresse dont les dégâts visibles ne peuvent vraiment pas nous laisser insensibles. Donc pensons à nos amis les pêcheurs en détresse, à qui nous dédions cette courte fable express. Amis du Niseran, du Morgon, de l'Ardière, je préfère vous prévenir. Aujourd'hui, plus qu'hier, vos rivières se dépeuplent. Les pêches du futur seront insuffisantes, même pour une petite friture. Moralité, pêcheurs du Beaujolais, vous aurez l'alvin triste. Vie locale encore. Nos élus de l'agglo, toujours droits dans leurs bottes, votent dans un bel élan une mesure qui sabote une nouvelle fois la biodiversité et le climat. Comment ? Ils ont plébiscité l'extension des gravières de Platard Soréal. Tant pis pour celles et ceux qui, fort justement, râlent contre un projet indigne, hermétique aux alertes demandant l'ouverture vers des politiques vertes. Nos roitelets locaux restent totalement quoi ? Englués dans un monde vraiment inadéquat, avec tous les enjeux qu'aujourd'hui nul n'ignore. Mais qu'attendent-ils-t-on pour aller voir dehors, pour enfin regarder autour de leur calade, jeter aux oubliettes leurs mesures rétrogrades, pour qu'une fois pour toutes, le business as usual ne soit plus la doxa des politiques locales. Vie locale toujours. À Villefranche, le vélo est toujours marginal aux grandes dames de toutes celles et tous ceux qui pédalent. C'est pourquoi, récemment, un groupe d'activistes, frustrés du peu d'égards accordés à leurs pistes, ont décidé ensemble de peindre dans la rue une belle voie cyclable, ensuite parcourue par plus de 100 cyclistes, fort ravis de l'aubaine. Ah oui, ce fut vraiment une belle balade urbaine. Et pourtant, tout le monde n'eut pas le même avis, notamment nos élus, qui, loin d'être ravis, ne firent ni une ni deux et repeignirent en noir ces quelques lignes blanches pourtant porteuses d'espoir. Le président lui-même exprima son courroux, nous faisant bien douter qu'il aime les deux roues. Fable Express. Du haut de son Olympe, le prince de l'agglo dénigra publiquement les pistes pour vélo. Il y a des occasions où il vaut mieux se taire, plutôt que de passer pour un élu sectaire. Fermé, cadenassé, cœur de bronze, inflexible, oui, le silence est d'or, c'est beaucoup plus crédible. Moralité ? Or, aujourd'hui, vaut mieux que cœur de bronzière. Conclusion. Et voilà, c'est fini. La prochaine émission nous trouvera peut-être en pleine ébullition, car nous aurons vécu une nouvelle COP, 27e du nom. Négociation non-stop destinée à faire naître quelques germes d'espoir. Souhaitons pour le climat une belle victoire. À moins que, comme d'hab, on se retrouve chocolat à cause des sponsors comme Coca-Cola. Entre-temps, à Villefranche, continuons à semer. Idées, initiatives, ça commence à germer. Unis pour le climat et la justice sociale, autour d'un objectif, le rêve général.
Et merci Bernard pour cette chronique. À chaque fois, on se régale. Vous pouvez la réécouter puisque cette émission est en podcast sur le site de Radio Calade Et vous pouvez du coup vous refaire toutes les chroniques vertes de Bernard. Un régal à chaque fois. Quelques petites infos d'actu avant de clôturer cette émission et de vous retrouver le mois prochain. Une actu en lien avec la chronique de Bernard, le PLUIH, c'est le plan local d'urbanisme de l'agglo de Villefranche, est en ce moment en préparation du côté des élus. Vous pouvez retrouver sur le site web de l'agglo une possibilité de poser vos observations et de poser aussi les remarques que vous pourriez avoir par rapport justement à l'eau et à la mobilité, puisqu'effectivement nous avons eu une action sur les pistes cyclables le mois dernier. Et puis si vous voulez nous rejoindre pour une prochaine action, peut-être pas sur des pistes cyclables mais peut-être sur autre chose, nous tenons deux réunions d'accueil à Alternatiba ce mois-ci. Vous pouvez nous retrouver samedi 12 novembre ou mercredi 16 novembre, le matin ou le soir. Vous trouverez toutes les informations sur notre site internet Alternatiba, Villefranche-Beaujolais, samedi 12 novembre et mercredi 16 novembre pour une réunion d'accueil et nous rejoindre pour des actions locales ou pour même participer au montage de ces émissions. Un grand merci encore à toute l'équipe qui était là derrière moi et derrière les micros. Il y avait donc Bernard pour la chronique. Merci à Alice et à Gaëlle en coulisses, derrière le plateau, de tous ces petits boutons pour faire la régie. Un grand merci à Radio Calade, à Mathieu qui nous aide à réaliser cette émission et à ce partenariat très fructueux. On a été vraiment très contents de recevoir M. Thévenet du syndicat. Il y aura certainement d'autres occasions de se retrouver pour reparler de l'eau. Et en attendant, n'hésitez pas à voir le site internet de Radio Calade pour podcaster cette émission. On est férus de vos remarques aussi sur les réseaux sociaux, sur notre site internet ou sur notre compte Instagram ou Facebook. Un merci à tous et à très bientôt.
Alors on chante, qu'est-ce qu'on attend? On n'a pas de terre de rechange, on n'a plus le temps de faire semblant. Alors on se lance, on laisse tout faire. On n'aura pas de deuxième chance, pas de plan B, pas d'autre terre.
100.9 Galade.